bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison. Et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, Unae est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique Unae avec le code biomécanique15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, Unae, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus quali actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de poissons sauvages et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés, il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, alors je ne les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr, unae.fr. La dernière fois vous avez été des centaines à passer commande, vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits, alors cette fois traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Donc bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Biomécanique. Aujourd'hui, je suis avec un homme très fort, très très balèze d'ailleurs. J'ai l'impression que tu dépasses de l'écran. Je n'arrive pas à voir les deux pointes de tes clavicules.
Je vais m'enculer.
Donc Aurélien Lejeune, bonjour Aurélien et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Jérôme, merci de ton invitation.
C'est un plaisir, j'en avais discuté avec il n'y a pas si longtemps avec Jean Honche, que je lui ai confié que justement j'avais pas eu l'occasion d'avoir un invité qui représentait les sports de force. Vraiment, j'avais eu de l'haltérophilie auparavant, mais tout ce qui est strongman, force athlétique. Alors j'ai eu Baptiste Marché, hein, dont oui. Que tu connais bien, évidemment. Oui. Il y a quelques semaines, dont tu as fait un repas de seigneur aussi assez exceptionnel.
Ouais, on avait fait deux émissions ensemble, un repas de seigneur. Genre, j'ai jamais mangé autant. Et c'était très bon en plus. Et repas de seigneur et ensuite une autre émission avec lui où on parlait un peu des messages sulfureux qu'on nous envoie sur Instagram.
Ouais, je crois que je l'avais vu cette vidéo aussi. Donc Baptiste, on lui passe le bonjour s'il écoute. Et je propose de suite qu'on saute dans l'épisode. Si tu pouvais te présenter s'il te plaît pour tous les auditeurs.
Alors, ben, je m'appelle Aurélien Lejeune, donc j'ai 36 ans, je vis en Normandie, en France, et ça fait bientôt 20 ans que je m'entraîne en musculation et une bonne dizaine d'années que je participe à des concours de sport de force. Alors, pas que les concours d'hommes forts, j'ai aussi beaucoup fait de concours de force athlétique. Je crois que c'est dynamophile que vous appelez ça au Canada, il me semble, de force
Très
athlétique.
capable de dire.
Et également de développé couché et des concours d'hommes forts. Donc, j'ai au total 10 titres de champion de France sur le développé couché, un en force athlétique. Et depuis 2 ans, donc, j'ai eu le titre d'homme le plus fort de France. Donc voilà pour l'actu. Et ça fait aussi également quelques années que je participe à des compétitions en Strongman Champions League, donc une ligue de professionnels d'hommes forts.
Parce qu'il n'y a pas que le strongman pour se déclarer homme fort. Hein.
Ah, bah, si, il y a les compétitions d'hommes forts, donc c'est vraiment une discipline à part.
Ce que je veux dire, c'est que strongman, est-ce que c'est une appellation officielle d'une certain type de compétition, un petit peu comme IFBB?
C'est exactement ça, voilà. Ouais. L'IFBB, c'est les bodybuilders, les culturistes. Et on va dire, nous, en français, on dit homme fort, et en anglais, on dira strongman. Mais c'est bien une discipline à part entière, donc qui est bien dissociée de la force athlétique, de l'haltérophilie, etc.
Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de sport?
Ah
Peut-être ta
oui.
première séance dans une salle d'entraînement et après ta première séance de strongman. Je sais pas s'il y a une séance spécifique.
Si, alors ma première fois en salle de musculation, bah, c'était avec mon père il y a presque 20 ans maintenant. Hein. Lui était pratiquant mon loisir et du coup, bah, je suis venu une fois faire une séance de musculation avec lui et puis je suis jamais reparti. Et ma première séance de strongman, d'homme fort. Aussi parce que ça faisait un petit bout de temps en fait que je faisais déjà des compétitions de force athlétique et je cherchais des endroits où m'entraîner en homme fort parce qu'il faut le matériel spécifique évidemment les Atlas Stone etc et j'ai dû aller jusqu'à Amiens donc c'est en Picardie à presque 2 heures de chez moi de route pour aller m'entraîner avec un gars qui s'appelle Christophe qui avait le matériel et c'était la première fois où j'ai pu découvrir la discipline du strongman en le pratiquant.
Et c'est quoi la discipline du strongman alors?
Alors le
Parce qu'on a tous, je pense qu'on a tous vu les vidéos sur Internet ou à la télé où les mecs ils portent des troncs d'arbres, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a des normes, il y a des vrais exercices qu'il faut réaliser? Comment ça se passe?
Ouais, le strongman en fait, c'est composé d'une vingtaine d'exercices qu'on retrouve régulièrement en compétition. Le but, la plupart du temps, c'est soit de soulever quelque chose le plus lourd possible, soit de déplacer quelque chose de lourd le plus rapidement possible ou le plus longtemps possible. Il y a toujours cette notion de performance physique et de force qui est là, même si on est parfois sur la force endurance, force pure ou force explosive, peu importe, mais toujours la notion de force qui est là. Et très souvent, c'est des épreuves un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est pas juste soulever une barre quand on est en musculation, en haltérophilie. Nous, on va être sur du déplacement d'objets un peu hors du commun, retourner des pneus, soulever les fameuses Atlas Stone, tirer un camion, un poids lourd. Donc voilà, c'est du sport, j'appelle ça du sport spectacle en fait, parce que c'est pas des mouvements que l'on a l'habitude de voir au quotidien.
Tu sais comment c'est apparu, cette activité-là? Comment c'est né?
Alors, j'avais regardé un peu l'historique de ma discipline. Donc, bah, c'est vrai que de tout temps, les hommes ont toujours voulu se mesurer leur force. Donc, on retrouve dans beaucoup de cultures des épreuves de force. Dans les jeux celtes, dans la force basque, par exemple, on retrouve des épreuves de force. Et à fin 19e, début 20e, en fait, les hommes forts bah, exerçaient dans les cirques la plupart du temps. Où le but c'était de soulever les choses les plus lourdes possibles, et ils ont commencé à se rassembler pour bah, s'affronter et à soulever des choses de plus. Donc ils sont sortis un peu des cirques et des jeux traditionnels, on va dire, de force de région pour s'affronter sur des compétitions. Ça a pris un peu de temps pour se professionnaliser, hein, parce que les premières grosses compétitions internationales c'est dans les années 70, pas avant. Avant c'était un peu quand même un petit peu plus. C'était quand même réservé à un public averti, c'était pas grand public. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut voir très facilement. Mais il a fallu attendre un petit peu pour que ça se professionnalise.
Ouais. J'ai remarqué que c'était
un peu plus underground, quoi. Il y a quelques années, c'était un truc qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait. Alors, c'est en train de se démocratiser un petit peu. C'est pas hyper connu, hein, mais je pense que le côté spectacle aussi fait que. On a envie de voir, quoi.
Bah, y a le sport spectacle, et puis depuis quelques années, on a aussi la chance d'avoir des athlètes qui sont devenus, qui ont dépassé le stade d'athlète en fait de la discipline, qui sont devenus des gens extrêmement connus, comme After Julius Bjornsson, qu'on appelle Thor, qui a joué dans Game of Thrones.
Ça a pas mal popularisé le truc.
Pour moi, il y avait un avant et un après lui. Et même si
il est vraiment balèze.
Il a gagné le titre en 2018, donc c'est pas rien. Il est vraiment balèze.
Je sais.
Mais du coup, ouais, au niveau médiatisation, franchement, il y avait un avant et un après lui.
Ouais, clairement. Comment il s'appelle ? The Beast aussi ? Je sais pas si lui fait du strongman.
Eddie Hall, ouais, The Beast ici. Ouais. Il a gagné le titre, lui, en 2017. Eddie Hall, l'homme le plus fort du monde. 2018, c'était After. Ouais.
Parce que depuis... J'ai l'impression que plus récemment, il fait davantage de records sur des barres. Enfin, moi, je l'ai plus vu sur des records sur du deadlift, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu omis qu'il faisait du strongman. Mais effectivement, il est assez connu. Ouais.
Il a été le premier homme à passer 500 kilos au soulevé de terre. Ça a été le premier. Donc, c'est pour ça qu'il a surtout été connu. Mais ça fait partie des deux athlètes les plus connus au monde et les plus médiatisés.
Comment tu fais au soulevé de terre ?
380. Merci, moi.
120 kilos. Et en plus, il est pas très grand, il me semble. Hein.
Ah, ça, c'est relatif. Il fait 1m91.
Oui, oui, voilà, exactement. Comment il fait, Edio ?
Edio, il fait 1m91.
Ouais, bon, ouais. Combien tu fais, toi ?
1m84. Je suis petit, moi.
1m... Ah, ben, tu vois. Alors, de mon souvenir, et encore une fois, je suis pas connaisseur, hein, mais du souvenir et des perceptions que j'ai, je t'aurais vu beaucoup plus grand que lui.
Merci.
Des vidéos que j'ai vues de toi et des vidéos que j'ai vues de lui. Tu vois.
Non, bah après, là, il faut savoir qu'en sur les compétitions professionnelles, je suis souvent un des plus petits. 1m84. Très souvent un des plus petits.
Ça te désavantage ?
Ah oui et non. Il y a des épreuves où c'est un avantage, d'autres non. Après, il faut peut-être compenser par la technique, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Au final, la preuve en est aujourd'hui. L'actuel homme le plus fort du monde, hein, celui qui a gagné en 2020, Oleksiy Novikov, l'Ukrainien, fait 1m79.
Donc petit pour un strongman, en fait.
Et très petit et très léger. C'est dans les annales du strongman professionnel, c'est le plus petit et le plus léger à avoir gagné le titre.
Je me demandais justement, donc t'es l'homme le plus fort de France. Déjà, félicitations à toi et pas grand monde doit t'emmerder. Donc déjà, peut-être que il y aura très peu de haters sous les vidéos. Enfin, quoique sur Internet maintenant, les gens ils se cachent.
Sur Internet, c'est facile, c'est très facile.
Ouais. Donc l'homme le plus fort de France, excellent. 2020, il n'y a pas eu de compétition. Donc quand je regardais un petit peu ce qui se faisait dans les compètes dans les dernières années, et puis évidemment dans l'année dernière, je me disais il n'y a pas eu de strongman de compétition en 2020, ce qui fait que
si on par défaut, non, on a
par défaut, t'es ok, mais
on a réussi à faire des compétitions quand même. On a eu une fenêtre en fait très courte parce que le Covid a commencé en France mars et on a tout fermé jusqu'en juin. Et du coup, on a réussi à faire des compétitions en fait sur la période estivale, donc juillet, août, septembre, on a réussi à faire des compètes.
Et ça t'a permis de garder ton titre ?
Et oui, donc on n'a pas pu faire le championnat complet, mais on a pu faire des compétitions et que j'ai gagné. Donc du coup,
est-ce que tu peux peut-être donner tes mensurations ? Donc t'as dit ta taille.
1m84 et en poids, je suis. Alors ça dépend des périodes de l'année, mais je varie entre 150 et 160 kilos.
Voilà, donc pour ceux qui avaient un doute du gabarit, quand je vous disais que les clavicules sortaient de l'écran, tellement il était balèze, c'était pas n'importe quoi. Comment on se passionne pour le strongman ? Tu as dit un petit peu la première fois que tu as fait une séance. Est-ce que tu as eu un déclic ? Tu t'es dit c'est fait pour moi, tu as senti une habileté à être fort, à soulever des charges ?
J'ai toujours envie de faire ça en fait, parce que moi quand j'étais petit, je regardais ça à la télé, ça passait en France, c'était diffusé, donc je regardais les concours d'hommes forts, j'ai toujours voulu faire des sports de force, et j'ai dû tanner très longtemps mes parents pour qu'ils m'autorisent à aller en salle de musculation, donc je savais ce que je voulais faire, après je savais pas que j'avais le potentiel pour le faire et progresser, ça je l'ai découvert en pratiquant tout simplement. Mais j'ai toujours eu envie ouais, de faire des disciplines de force.
Tu te souviens quand tu étais petit, donc tu soulevais des trucs, t'as toujours été. Je crois que tu as commencé par l'haltéro aussi, hein.
Alors, j'ai fait un peu d'haltérophilie. Pardon. J'ai commencé. Alors, le premier sport que j'ai fait, c'est du judo. J'ai fait du judo, comme beaucoup de garçons. Ensuite,
Est-ce que
j'ai
le
fait de
judo,
la.
c'est pas un peu le sport où on balance le môme lorsqu'on veut être tranquille le mercredi après-midi? J'ai l'impression que
Je
c'est
crois
ça.
que c'est ça. Tous les petits gars ont fait du judo. Et après, j'ai fait de l'athlétisme. J'étais lanceur de poids et de disque. Donc là, du coup, j'ai commencé à pratiquer un peu la musculation. Et après, j'ai fait de nombreuses années de rugby. Et où là, c'est vraiment ces périodes-là où j'ai commencé à développer le plus possible ma force. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait un potentiel derrière pour les sports de force. C'est vraiment dans ces années rugby où j'ai pu travailler énormément en musculation.
Une question qu'on peut souvent se poser, c'est dans les sports de force, dans les strongman, il faut être hyper lourd.
Alors,
Est-ce que le fait d'être lour, en fait, ça te donne un avantage?
sur certaines épreuves, ouais, ça va être un avantage parce que ça va te donner une gravité, ça va te donner un équilibre un peu plus important, mais faut trouver le juste milieu en fait entre être lourd et que ce soit utile faire par rapport à ma taille déjà et être trop lourd où là ça va être handicapant. Les athlètes les plus lourds ne sont pas ceux qui gagnent au final. En strongman, c'est pas rare de voir des athlètes qui pèsent plus de 200 kilos en poids de corps et c'est pas les premiers. Le strongman, c'est pas juste soulever lourd. Il y a des mouvements en déplacement, il y a des épreuves explosives, dynamiques. Donc du coup, faut vraiment trouver un juste milieu.
Ouais. Quand tu décides de t'intéresser à ce sport, on est en quelle année là? Quand tu décides vraiment de te
Alors
plonger
mes
dans le
premières
strongman?
compétitions en force athlétique, c'est 2008, et ma première compétition d'homme fort, c'est 2012.
2012. À ce moment-là, c'est pas hyper populaire, 2012.
Non, 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 ça commençait un peu parce que c'était la période où bah, Game of Thrones arrivait, je crois, et Thor, du coup, commençait à être connu. Donc ça s'est un peu développé dans ces années-là, 2012 jusqu'à 15, 16, etc. C'est dans cette période-là où ça a vraiment monté.
Comment tu te renseignes? Parce que si c'est pas si au lorsque tu commences à t'y intéresser, c'est pas hyper hyper populaire comme ça aujourd'hui. Comment tu fais pour choper les infos? Est-ce que tu rencontres les bons gars? Est-ce que tu tapes sur internet comment? Si c'est pas connu, comment on fait pour vouloir faire un sport dont on par définition
Bah
on sait pas
alors,
trop ce qu'il existe dedans, quoi.
aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce que les réseaux sociaux sont très développés, la fédération est présente dessus, les athlètes aussi. Donc, c'est assez facile au final. Il suffit de taper sur Instagram Strongman et on va trouver quelque chose. Moi, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était pas le cas. Donc, bah, il y avait les magazines qui étaient là pour passer les informations à l'époque. La plupart ont disparu maintenant. Mais il y avait les magazines Flex, Le Monde du Muscle, etc., qui relayaient aussi les infos des hommes forts.
Ah ouais.
Il y avait les salons. Dans les salons, moi, j'allais souvent soit au salon à Paris ou au FIBO en Allemagne, qui est un gros salon dédié à la musculation. Et c'est là où on pouvait rencontrer les pratiquants de cette discipline, qu'on pouvait rencontrer les fédérations, etc. Donc c'était par ce biais-là, en fait, qu'on arrivait à prendre contact avec des gens pour pouvoir se lancer. Et c'est vrai que c'était pas à mes débuts. J'ai longtemps cherché avant de trouver un club, de trouver des infrastructures, etc. C'était pas facile.
Comment tu débutes quand tu t'entraînes? Tu copies des mouvements que tu vois dans les magazines, t'essaies de. Parce que je parlais des troncs d'arbres tout à l'heure ou des uni-haltères, enfin.
Ouais, les dumbbells. Bah après, le but, c'est déjà d'avoir le matériel. Ça, c'est alors, chez nous, en France, c'est le plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui sont équipées. La plupart des équipements, c'est des athlètes comme moi. Aujourd'hui, j'ai mon home gym où je suis équipé de A à Z, quasiment sur tout le matériel possible de Strongman. Mais voilà, ouais, j'ai dû m'équiper avec les années. Donc, faut avoir le
T'es sponsor
matériel.
Palini, hein.
Oui, au niveau matériel, genre j'ai deux sponsors. J'ai Palini, donc qui est un fabricant français normand de matériel historique, hein, qui est très très ancien. J'ai également Metalsgeist, donc qui a une entreprise qui vient de République tchèque qui me fournit sur du matériel spécifique Strongman. Donc ça, c'est pour la partie équipement.
Ok, donc ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui t'es équipé, mais à l'époque c'était pas hyper simple.
C'était pas facile, non. En général, on trouvait pour s'équiper, c'était pas compliqué. Hein. On trouvait un chaudronnier dans le coin, dans le village, et on lui demandait de prendre deux, trois barres en fer et de souder un truc pour faire l'appareil. Et j'ai commencé comme ça.
Ouais. C'est quoi ton objectif à ce moment? Tu veux peut-être pas en vivre, mais c'est une passion. Tu veux essayer de développer ça quand
Alors
tu commences?
maintenant, le but, ça serait en vivre. Non, parce que même si demain j'arrive à être dans les 10 meilleurs au monde, je pourrais peut-être en vivre, mais il faut se dire que c'est quelque chose qui ne dure pas éternellement. Donc je pense que je ne partirai jamais sur l'idée que je vais vivre que de ça. L'objectif, ça serait déjà de cette année d'atteindre la finale de l'Astroman Champions League. Donc ça fait 2019, j'étais bien parti pour y accéder à cette finale de l'Astroman Champions League, donc la Ligue Pro. J'ai eu un enfant entre deux, donc du coup, j'ai dû, on va dire, stopper pendant 2-3 mois. Donc du coup, je n'ai pas pu aller en finale. 2020, les compétitions professionnelles, il n'y en a quasiment pas eu cause Covid. Et donc j'espère cette année, l'objectif, ça va être vraiment de reprendre les compètes dans cette ligue, d'atteindre la finale. Et le Graal pour tout strongman, c'est d'atteindre un jour la World Strongest Man, donc la... On va dire la super finale de toutes les ligues pro. Là, ça serait le Graal. C'est plus compliqué.
Ouais. On va revenir après un peu sur les compétitions. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir. Ouais, alors quand tu as commencé le Strongman, tu étais 2012. Tu avais quel âge?
2012, j'avais 24 ans.
24 ans, tu étais déjà dans la vie active. Je crois que j'ai vu, tu étais dans l'informatique. dans l'aéronautique, non?
Alors, j'ai fait des études dans l'aéronautique pendant
alors,
pas mal d'années.
Informatique.
Je sais pas pourquoi tu as dit ça. J'ai fait des études dans l'aéronautique pendant pas mal d'années. Et après, en fait, j'ai tout arrêté dans cette période-là, en 2008-2009, pour reprendre mes études à zéro et partir dans le monde du sport. Donc j'ai passé plusieurs diplômes dans le sport pour aujourd'hui vivre de ça.
Ok, effectivement, je me suis trompé dans mes prises aéronautiques, ouais, mais productique. Donc
c'est ça.
Productique que tu as fait. Ouais,
c'est ça, avec... exactement ça. Donc j'étais dans un bureau méthode, exactement.
Ouais. Est-ce que tu rentrais sur... t'étais aussi balèze à l'époque, tu rentrais sur les chaises?
Oui, à l'époque je jouais au rugby, hein, donc j'étais déjà, je devais peser dans les 120 kilos, 125 kilos. Voilà, rester 40... quand je travaillais dans ce métier, hein, c'est un beau métier, il y a plein d'avantages en plus dans l'aéronautique, mais me dire je vais passer 40 ans assis à un bureau, c'est pas possible.
Non, c'était pas ton truc, ouais. Ils sont tous balèzes dans ta famille? C'est un truc qui se transmet?
Ouais, si, oui. J'ai pas mal de cousins qui sont très grands. Et, dans la famille du côté normand, c'est assez costaud quand même.
Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer que t'aies des parents qui soient petits, chétifs. ça doit exister. Hein.
Oui.
Je crois que j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui étaient naturellement balèzes ou sans forcément faire de musculation, qui avaient une bonne shape, une bonne masse musculaire, alors que les parents, c'était pas du tout le cas. Mais ça reste rare. Ok. Un peu sur le strongman, la force athlétique. Alors toi, tu as commencé avec la force athlétique. On va peut-être rappeler que la force athlétique, c'est un ensemble de trois mouvements, qui est le développé couché, le
squat, soulevé de terre, développé couché, voilà. Et celui qui soulève le plus loin.
Et dans quel mouvement tu as été le plus fort?
C'est le développé couché, ça a toujours été mon mouvement phare.
Parce qu'aujourd'hui, tu as le record en plus.
Non. Non, ce n'est plus moi.
Merde.
Non, c'est le jeu, c'est fait pour être battu un record. Puis j'ai arrêté cette discipline, donc du coup, c'est normal que des gens me passent devant. Ouais. Et non, c'est plus moi.
Combien t'avais fait?
Alors, dans la fédération, la FF Force, qui est agréée par l'IPM, donc la fédé officielle, j'avais fait 305 kilos au développé couché.
C'est énorme, hein, 305 kilos, c'est quoi? À quoi on pourrait le comparer pour ceux qui sont pas trop éveillé à ce genre de poids?
Bonne question.
300 kilos, combien ça pèse une voiture?
Voiture, ça fait quoi? Une tonne, une tonne deux?
Une tonne deux, sachant que tu lèves les voitures par l'arrière, hein, si on va voir ton compte Instagram.
Aussi,
c'est
ouais.
Du soulevé de terre avec les voitures, ça c'est assez.
C'est bon. Ça.
C'est le système B pour t'entraîner?
Oui, à une époque c'était ça, c'était le système D. On se débrouillait. Mais c'est une épreuve, hein, le soulevé de voiture, le deadlift car, c'est une épreuve strongman que l'on retrouve régulièrement en compétition.
C'est quoi les bagnoles qu'ils utilisent ?
C'est variable, hein. Ça va de la simple citadine au pick-up, au 4x4.
En fait, il n'y a pas de référence absolue, ça varie en fonction des compétitions. Est-ce que justement, c'est pas ça la difficulté, c'est qu'il y a toujours une variabilité sur les épreuves ?
Alors, sur certaines épreuves, il y a une variabilité, mais depuis de nombreuses années maintenant, il y a quand même des choses qui se sont standardisées sur le soulevé de terre, le log, le dumbbell, etc. Là, on est quand même sur des choses assez standardisées. Mais après, oui, il y a des épreuves plutôt spectaculaires où là, oui, c'est difficile de mettre un standard là-dessus. Comme tirer un camion, on n'a pas forcément toujours le même camion, etc.
Est-ce que c'est toujours les épreuves sont toujours plus ou moins les mêmes dans la compétition ? Tu les connais à l'avance ou tu les découvres ou des fois ça change au dernier moment pour justement...
En général, on les connaît environ 6-8 semaines avant la compétition. On nous donne des épreuves.
Tu te prépares à fond, quoi.
On se prépare dessus. Ça tourne, en fait, de compète en compète. On retrouve des mouvements quand même classiques, mais il y a une rotation qui se fait. Et parfois, oui, ça peut arriver. Hein, donc, le jour J, un changement d'épreuve, soit parce que le matériel n'a pas pu arriver sur place, ou voilà, il y a plein de possibilités. Donc, ça peut arriver qu'il y ait un changement au dernier moment.
Ça t'est arrivé, toi, d'être à l'approche d'une compétition, de voir certaines épreuves qui ont été sélectionnées, de dire « Ah ben tiens, merde, là... je suis un peu désavantagé parce que c'est pas là où je suis le plus fort. Par contre, lui, je sais qu'il est bon là-dessus. Ou alors d'autres fois où tu dis, ah là, c'est des épreuves où je sais que je vais être bon, donc je vais prendre l'avantage par rapport à ce concurrent, par rapport à cet adversaire, etc. Est-ce qu'il y a des calculs un peu stratégiques sur les épreuves ?
Bien sûr. Alors, calcul stratégique, non, pas vraiment, parce que au final, à chaque fois, il faut être le plus performant possible. Hein, donc, il n'y a pas une note de juge ou d'arbitre. C'est soit on arrive à le faire ou pas. Mais par contre, oui, c'est vrai que des fois, quand tu reçois la liste des épreuves pour une compétition, bah, tu sais, quand tu vois les autres adversaires que tu connais, tu sais si tu as ton avantage ou pas, parce qu'on a tous des points forts, des points faibles. Donc oui, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des compétitions où je me dis, bah, là, c'est top, je vais être bien, les épreuves, elles sont faites pour moi. Et d'autres où c'est tout l'inverse. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est pas l'athlète qui choisit les épreuves, donc du coup, parfois, on est avantagé, d'autres non.
Tu connais un peu tout ce qui est morpho-anatomie, les leviers, les longueurs musculaires, les longueurs osseuses. Ça fait un petit peu débat. Je sais qu'il y a Baptiste qui a fait une vidéo il y a quelques temps où il expliquait justement que, de son point de vue, le fait d'avoir des bras courts, des bras longs, etc., ça n'a pas finalement un grand levier d'importance sur ses performances ou sur le fait d'être bon au développé couché. J'avais eu de Frédéric Delavier aussi, donc l'épisode est déjà sorti sur le podcast au moment où on se parle. L'épisode n'est pas encore sorti, mais quand celui-là sera sorti, Frédéric Delavier sera sorti, où justement il disait que si ça avait quand même une importance, que en fonction de la biomécanique, etc., ça avait quand même sa grande importance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, et par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des leviers favorables au strongman ?
Alors, moi, je vais partir sur deux choses, déjà. Je suis formateur, hein, pendant mon métier, là, je suis coach et préparateur physique, mais je suis aussi, la plupart du temps, maintenant, formateur pour les futurs coachs. Je vais dissocier, voilà, ceux qui passent le BPJEPS en France, je vais dissocier déjà le sportif amateur qui fait ça pour se faire plaisir et le sportif haut niveau qui est compétiteur. Pour moi, amateur, tout le monde peut pratiquer. Il n'y a pas de, parce que t'es grand, t'es petit, ou je sais pas quoi, tu peux pas faire. J'entends souvent, moi, quand j'ai des élèves qui me disent, ah oui, mais je suis grand, je suis 1m90, je peux pas faire de squat, je peux pas faire de soulevé de terre. Alors, pas de bol, je leur donne l'exemple, de Thor. Il fait 2m06, il squatte à 450 kg, il a un soulevé de terre à 501 kg. Ça me dire qu'après, tu peux pas faire de squat parce que tu fais 1m90. Donc ça, pour moi, c'est des conneries. Par contre, sur l'aspect compétition, c'est évident, si on veut performer, il y a des personnes qui sont avantagées par rapport à d'autres. Ça, c'est d'un point de vue génétique. La génétique va faire tes leviers osseux, etc. C'est évident, quoi, que selon les mouvements que l'on a. Donc, c'est un peu l'avantage du strongman au final, parce que les morphotypes, c'est vrai que c'est quand même toujours des gens assez grands, costauds quand même, mais en fonction de nos leviers, on va toujours retrouver des épreuves où on va être plus performant que d'autres. Grâce à ça, donc ouais, ça sur l'aspect compétitif performance, ça va jouer quand même. Même s'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Je pense que Baptiste avait peut-être parlé de Julius Maddox, qui est aujourd'hui le recordman du monde, toute fédération confondue, du développé couché sans matériel. Si on le regarde, le gars a un morphotype de bencher. Il est grand, il a des grands bras, et pourtant il a le record du monde.
Donc c'est des cas
et l'exception qui confirme la règle, mais c'est vrai que sur certains mouvements, il y a des morphologies qui vont être plus adaptées pour performer.
Ouais. Tu remarques, toi, dans tes cours, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire strongman ou qui veulent faire de la force athlétique?
Non.
Non. Ah ouais, ça n'intéresse pas.
Non, là, actuellement, la grande mode, c'est le CrossFit. Le CrossFit, ou s'ils veulent se lancer dans un peu tout ce qui est bodybuilding, ça va te faire faire des compétitions en mens physique, etc. Mais j'ai rarement vu des élèves, ça fait 10 ans hein, que je suis formateur, etc. J'ai rarement vu des élèves qui souhaitaient se lancer dans la force athlétique ou le strongman. Il y en a eu quelques-uns, certains avec beaucoup de réussite en plus. Mais c'est rare. Non, c'est dans les jeunes aujourd'hui, c'est pas l'objectif.
Comment tu l'expliques ça? Parallèlement au fait que le strongman devient de plus en plus spectacle, devient de plus en plus populaire, toi, sur le terrain, tu retrouves pas tant que ça d'ambition?
Non, alors il y a pas mal de paramètres. Déjà, la première chose, des fois, c'est que des gens veulent le faire, mais ils trouvent pas les lieux et les infrastructures pour le faire. Donc il y a ça qui peut mettre un frein. L'autre chose aussi, c'est que depuis que je suis formateur, j'ai remarqué que là, de plus en plus de jeunes en fait vont vers la facilité. Alors ce que j'entends, pas critiquer le CrossFit ou les compétitions de mens physique ou autre, mais pour être strongman, ça va pas se faire en une année ou deux années. Il va falloir de nombreuses années de pratique. Pour faire de la compétition et espérer faire des podiums, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et ça, beaucoup de jeunes sont pas prêts à le faire, de s'entraîner pendant 10 ans très dur pour y arriver.
Effectivement, je pense que c'est le filtre du rêve facile et du rêve facilement accessible. En tout cas, peut-être que ce filtre est moins important en bodybuilding ou en crossfit.
Encore bodybuilding, j'aime beaucoup cette discipline. Et aujourd'hui, beaucoup de débutants, enfin, je ne suis pas spécialiste non plus du body, hein, mais on voit beaucoup se dirigent plutôt vers les catégories main physique, c'est les gars en short, plutôt que vers les catégories bodybuilding, où là, quoi qu'il arrive, il te faudra des années d'entraînement avant d'atteindre un physique bodybuildé, alors que main physique, ça peut être très rapide.
Ça peut être plus rapide, ouais. C'est le fait qu'il y en ait beaucoup aussi sur Instagram.
Et oui, il y a cet aspect aussi là, aujourd'hui, maintenant, les influenceurs, YouTube, etc., qui jouent beaucoup.
Et oui, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs strongman encore, en tout cas. Et puis, il y a peut-être aussi ce côté... Tu vois, j'en parlais avec Baptiste. Les strongman, bon, il m'expliquait, il m'a dit, puis tu vas peut-être pouvoir me redétailler aussi, mais dans les sports de force, on n'est pas sec, on cherche pas à être sec, parce que c'est pas l'objectif et que ça va à l'encontre entre guillemets de la performance.
Ouais, ouais.
Donc peut-être que cet aspect esthétique, je sais pas.
Si ça joue, c'est sûr. L'aspect esthétique, ouais. Nous, il y a quelques athlètes strongman qui ont les tablettes de chocolat, mais quelques-uns, mais c'est rare. La plupart sont costauds, mais un peu gros. mais ouais, ça, il y a cet aspect esthétique aussi qui joue beaucoup. Ça, c'est sûr.
Tu galères, toi, à manger?
Non, j'ai de la chance. Je connais des athlètes en strong qui se forcent à manger. Moi, c'est pas mon cas. J'ai un bon appétit, j'ai un bon coup de fourchette. Donc, il n'y a pas de problème.
Tu sais à combien t'es en termes de calories par jour?
Et j'avais fait un calcul avec une amie diététicienne. Et j'étais entre 6000 et 7000 calories.
6000 et 7000, c'est beaucoup. La moyenne pour un homme moyen de 1m80, c'est combien?
Alors, je crois que c'est 2400 ouais, ça va être ça. 2400 ou 2500 calories, je crois.
Ouais, plus du double, quoi. Plus du double.
Ouais. Bah, je fais deux fois le poids d'un homme normal. Donc, du coup, au final.
C'est sûr. Si tu manges un peu moins, tu maigris automatiquement?
Oui, moi j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui réagit très très vite. Donc dès que je vais m'entraîner en force, commencer à manger beaucoup plus, je vais prendre du poids très très vite. Et inversement, dès que je m'arrête un peu de m'entraîner et que je mange moins, je vais redescendre aussi assez vite. Donc redescendre dans ma fourchette de poids, 150, 160 kilos. Je vais pas perdre 20 kilos.
C'est beaucoup. T'as jamais été intéressé, tu me dis, par le bodybuilding pour les plus novices, là, ceux qui ont du mal encore à faire les différences entre force athlétique, bodybuilding, tu sais, qui ont l'impression un peu, ouais, bah, c'est la même chose, tu vas dans une salle et tu pousses et puis tu deviens balèze. On pourrait avoir tendance à penser que le strongman, c'est très très proche du body. En fait, tu soulèves des charges et puis tu deviens musclé. En quoi le bodybuilding, toi, ça t'a jamais passionné? Parce que t'as peut-être...
C'est une discipline vraiment que j'aime. Moi, j'aime le bodybuilding, pas te mentir, hein, j'aime le body extrême. Moi, les physiques qui me plaisent en bodybuilding, ah ouais, c'est les gens comme Ronnie Coleman. C'est, voilà, les mêmes physiques en short, c'est pas mon truc. Mais voilà, j'aime les physiques extrêmes. Après, j'avais regardé, hein, bien sûr, pour me dire pourquoi pas. Et il y a un souci, moi, avec eux, c'est les régimes.
Ah, pour devenir sec. Tu sais quoi, je pensais, que me dire le... je pensais que t'allais me dire le slip.
Ah, je mets le slip s'il faut. Mais les régimes, non, c'est pas possible ça. Ah non, non, j'en connais, j'ai des amis bodybuilders de haut niveau et tout. Non, quand je vois ce qu'ils mangent, je peux pas. Moi, je peux pas.
Ouais, c'est à base de ben, sur les fins de régime, lorsqu'il faut, il s'agit d'être complètement sec pour aller sur scène.
Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir dans l'assiette. Et ça, c'est pas possible. Donc, non. C'est vraiment ça, moi. C'est l'aspect régime qui a fait que j'ai même pas essayé.
Bon, il y a peu de chances qu'on te voit reconverti dans les années à venir sur en catégorie body.
Il y a des strongman hein, qui l'ont fait. Il y en a certains, hommes forts qui ont fait du bodybuilding, mais moi non.
Est-ce que ça change, question bête, hein, ça change la structure ou ça change la morphologie dans un sens de faire du strongman? Est-ce que ces mecs-là, tu vois, parce que j'y pense, tu parles, il y a des gars qui ont fait qui ont fait des reconversions en body. Est-ce que quand ils se reviennent en bodybuilding et qu'ils arrivent à être secs, est-ce que il y a un petit peu les séquelles du strongman sur le développement de leurs muscles, leur morpho, la façon dont ils sont faits?
Si, oui, tu le vois. Ouais. Tu le vois dans le sens, quand c'est des hommes forts qui passent au bodybuilding, il y a toujours chez nous la taille large, les abdominaux. Beaucoup plus proéminent, développé, voilà. Donc du coup, ça malheureusement tu le vois quand même chez des gens qui sont passés dans le bodybuilding, ça se voit quand même. Ça se voit. Il y a quand même alors, je sais pas si c'est des séquelles, hein, c'est des conséquences de pousser lourd qui font ça, mais oui, ça se voit.
Et comparativement, il y a des mecs qui sont plutôt populaires, qui sont passés du body au strongman. Que ce soit en France ou ailleurs, je n'ai pas d'exemple.
Oui, il y en a eu quelques-uns. Bah, il y a eu le plus connu, il est décédé malheureusement, c'est John Paul Sigmarsson, qui a été plusieurs fois l'homme le plus fort du monde dans les années 80, qui avait fait du bodybuilding et qui est passé au strongman, donc avec réussite. Il y en a eu quelques-uns quand même.
Ronnie Coleman à l'époque aussi était. Il n'était pas strongman, mais il avait des performances qui étaient.
Lui a fait l'inverse. Lui, il a commencé ses premières compétitions dans le domaine de la musculation. C'était des compétitions de powerlifting, de force athlétique. Où il avait déjà un physique de bodybuilder. Mais voilà, donc, puis de toute façon, quand on voit ses entraînements, il poussait lourd. Et lui a commencé
combien
par
il soulève si tu le sais, combien il soulevait Ronnie Coleman sur le squat?
Il devait être à 400 kilos, je crois, un truc comme ça.
Et toi, tu es à 380?
Soulevé de terre, moi. Non, au squat, tu es à
350. Ah, soulevé de terre.
350.
Oui, bon, on n'est pas très loin non plus.
Non, Coleman était très, très fort. Très fort.
Ça reste impressionnant. Malheureusement, il s'est bousillé. Et ce qui m'amène tranquillement... Enfin, il s'est bousillé. Bah oui, il s'est bousillé, on peut dire.
Il ne regrette pas, d'ailleurs.
Non, bah, en tout cas, dans les dernières tribunes qu'il fait...
J'avais vu son reportage où il disait... Le journaliste lui posait la question... Il reprenait justement la séance qui a été célèbre avec lui, où il faisait, je crois, 2 ou 3 reps à 400 kilos au squat. Et le journaliste lui pose la question, il dit, est-ce que vous regrettez pas justement d'avoir poussé aussi lourd, d'avoir fait par exemple à 3 reps à 400 kilos au squat, là vos vertèbres sont détruites aujourd'hui. Et Coleman lui répond, seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait une 4e rep. Donc voilà l'état d'esprit du bonhomme.
Est-ce que tu penses que c'est pour la phrase ou il le pense réellement? Cassé dans son fauteuil ou
je pense qu'il le pense réellement. Ouais, ça fait partie des gens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour arriver à ça. Il a réussi. Je l'ai rencontré plusieurs fois en plus, un bonhomme super sympathique. Donc, Ben ça, un bon. Moi, j'aime beaucoup cet athlète. Ouais.
Ronnie Coleman. C'est marrant parce que tu disais, moi, je suis moins moment physique et t'aimes bien les gros gabarits. Moi, c'est un petit peu l'inverse. Ben, je pense que ça suit aussi à qui on se réfère, tu vois.
Oui.
Voilà. Voilà, moi, je pèse deux fois moins que toi. Et je suis plus petit, évidemment. Donc, moi, par exemple, le physique que j'aimais beaucoup, c'était celui de Frank Zane. Bah, c'est bien plus tôt, tu vois, mais qui aujourd'hui se rapproche beaucoup plus de men's physique.
Et oui, c'est ouais, aujourd'hui, si un gars comme lui faisait des compétitions, ouais, il serait dans la catégorie plutôt men's physique ou ce qu'on appelle classique maintenant, mais il serait pas en bodybuilding. Ouais.
Donc, d'un point de vue. Ouais, de point de vue santé, articulation, santé musculaire, tendon. On parlait de Ronnie Coleman et du fait de soulever des charges lourdes. Ouais.
Excuse-moi, 30 secondes, on tape à ma porte.
Vas-y.
Désolé, tu fais un montage de toute façon après?
Oui, alors bon. Soit je ferai un montage, soit je vais meubler tranquillement.
Oui, je 30 secondes, je me dépêche.
Vas-y, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. On verra si je fais un montage. C'est pas sûr. J'ai de plus en plus la flemme et le temps d'aller chercher des logis, enfin d'aller couper les épisodes. Si on revient à pas trop longtemps, je vais pas faire de montage. Là où je voulais en venir, sur ma question qui allait suivre, c'est sur la santé donc des articulations. On sait que Ronnie Coleman, il s'est un petit peu bousillé avec le squat. Il a des problèmes de hanche, il a des problèmes de dos parce qu'il a soulevé beaucoup trop lourd. Et c'est un peu ce que je demandais à Aurélien, en fait, sur s'il a déjà eu des problèmes articulaires.
C'est bon, de retour.
Et voilà, il est de retour. Donc, j'ai magnifiquement meublé. Je pense que ça n'aura même pas besoin la peine de faire un montage. Je voulais savoir si tu as déjà eu des problèmes articulaires, des problèmes de dos, des problèmes de hanches qui sont liés au fait de porter toujours lourd, comme à l'instar un peu de Ronnie Coleman.
Alors, de dos et de hanches, non. À l'époque du rugby, je me suis fait quelques blessures aux épaules. Et la seule grosse blessure que j'ai eue dans le monde de la force, j'ai dû en 2018 me faire opérer du genou parce que j'avais un tendon rotulien qui était fissuré sur toute sa longueur et qui était arraché. Il y avait déjà 30% d'arraché du tendon.
Ça, c'est le squat, beaucoup.
Alors, je sais pas si c'est le squat. C'est peut-être. Alors, je sais que c'est une tendinite du coup qui. J'ai eu deux années de tendinite. Hein. C'est une tendinite qui était devenue chronique, qui revenait régulièrement. Je l'ai fait soigner, mais malheureusement, je reprenais sûrement trop vite les épreuves. Et après, est-ce que c'est le squat? Est-ce que c'est les mouvements spécifiques d'homme fort? C'est sûrement un cumul de tout ça qui a fait que je me suis blessé. Et donc, bah, j'ai dû, en 2018, faire un choix, soit de passer par l'opération ou d'arrêter complètement, parce que le risque d'arrachement complet était trop important. Donc, du coup, je me suis fait opérer.
Ok, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait
Ils m'ont fait ce qu'on appelle un peignage du tendon. Donc, ils ont ouvert le genou, ils ont gratté le tendon pour le faire saigner et qu'il se reconstitue. Ils ont également, alors je sais plus le terme, fait une intervention sur la rotule parce que du fait que la tendinite était devenue chronique et que ça faisait plusieurs années qu'elle était là, bah, j'avais une excroissance osseuse qui poussait au niveau de la rotule. Donc, ils ont fait une ablation de cette excroissance et un peignage du tendon. Et ça s'est remis très très bien.
Ouais, t'as pas mis. T'as retrouvé tes barres. T'as retrouvé.
Et j'ai retrouvé mes perfs, ouais. J'ai retrouvé mes perfs. Donc, c'est revenu pas vite. Hein. Il m'a fallu presque une année pour revenir à un bon niveau, mais c'est revenu.
C'est ce que me disait Baptiste aussi quand il s'est déchiré le pec toral, le grand pec gauche, que finalement il a réussi à retrouver ses perfs. Ce qui moi, a priori, sans être sceptique du tout, mais en me posant la question, c'est vrai que j'ai tendance à me dire ça va être difficile d'aller retrouver le 100%. Et moi, il me disait qu'il avait réussi à retrouver 100% de ses perfs. Plutôt aussi visiblement. Donc.
Alors sur ça, ouais, à l'époque où je faisais des compétitions de développé couché comme Baptiste, moi j'ai eu aussi une déchirure du pec sur le pec droit. Il faut savoir que mes plus grosses performances, je les ai faites après. Donc, au final.
C'est marrant. T'avais quel âge?
Je me suis déchiré le pec, ça devait être en 2012, je crois, il me semble. 2012, ouais, j'avais 25, 26, un truc comme ça.
Ok, ouais, bah t'as été meilleur après. T'as ouais. jamais gardé de séquelles. Est-ce que tu avais travaillé sur ce PEC? Est-ce que t'avais
Alors oui, je fais moi du depuis alors depuis que je joue au rugby en fait, je fais du kiné. Et je vais toutes les semaines au kiné, je fais une séance de kiné toutes les semaines. Quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de blessure, j'y vais pour faire des étirements, des massages, etc. Et donc j'y vais systématiquement. Donc à chaque fois que je me suis fait une déchirure, il y a eu une intervention via le kiné très très rapidement dessus. Ce qui fait que je me suis déchiré un adducteur aussi, et j'ai aucune séquelle dessus quoi, en fait aujourd'hui.
Au rugby ou sur un squat?
Sur un soulevé de terre.
sur un soulevé de terre. Ouais, ok. Tu le prends large ou
Pas spécialement, non, mais voilà, il y a peut-être un coup de fatigue et puis bah, j'ai senti le petit claque.
À l'intérieur de la cuisse. Hein,
ouais. À l'intérieur de la cuisse, ouais, l'adducteur. Je ne me rappelle plus si c'était le grand adducteur, je ne me souviens plus.
Ça a dû te faire bizarre.
Ça fait mal, l'adducteur. Le grand pectoral, je me suis déchiré, j'ai pas eu mal, franchement. L'adducteur, par contre. Ouais.
Ouais, parce qu'après, tu peux plus marcher. Tu poses le pied, tu bouges, c'est insupportable.
C'est compliqué.
Ceux qui ont un doute, faites travailler les adducteurs en salle si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, et puis regardez comment vous vous sentez les jours qui suivent. Les courbatures aux adducteurs, je trouve que c'est une des plus horribles en fait.
Ouais, non, même pour faire récupérer de cette blessure, mon kiné m'a fait des étirements, des massages, des MTP, etc. Et c'était pas agréable.
Ouais. Ok, donc finalement, au niveau des articulations, t'as aujourd'hui rien de douloureux.
J'ai pas eu les seules tendinites que j'ai eues, c'est au genou. Poignet, j'ai rien. Coude, j'ai rien. Aux épaules, j'ai eu des blessures, mais c'est au rugby, avec les impacts, les contacts, forcément. Mais en lien avec la musculation, non, au final, j'ai pas eu grand-chose. Alors, bien sûr, ça m'arrive parfois d'avoir un peu mal au dos, mais c'est plutôt musculaire qu'articulaire.
Et quand tu voyais Ronnie Coleman, quand il s'était, l'état dans lequel il est actuellement, enfin je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les dernières années, on a vu pas mal de vidéos, de même son documentaire sur Netflix, on voit qu'il est un petit peu cassé, qu'il a la hanche, qu'il s'est fait opérer plusieurs fois, il a des vis dans les vertèbres, etc. Quand tu voyais ça, t'as pas eu peur de dire, si je soulève des charges lourdes, si je squatte lourd, si je fais du soulevé de terre lourd, que je fais du strongman? En fait, je risque qu'il va lui arriver là, quoi. Alors, parce qu'il lui arrive.
Ouais, après, toute proportion gardée quand même. Coleman, il a été le meilleur au monde dans sa discipline pendant de nombreuses années. Il y a aussi la différence aussi avec un gars comme Coleman et un strongman, c'est que lui, on parlait tout à l'heure des régimes, il met son corps parfois en carence. Il met souvent son corps en carence d'ailleurs pour atteindre cet aspect esthétique. C'est pas le cas des hommes forts. Moi, je connais des athlètes strongman qui ont eu des grandes carrières et qui aujourd'hui, on voit des bonhommes qui ont 60 ans, ils sont en pleine forme. Hein. Ils ont un physique qui est toujours en norme et ils tiennent la route. C'est aussi le facteur chance qui joue. Hein. Malheureusement, il y a des gens qui vont très peu pratiquer, ils vont se blesser et avoir des séquelles à vie. Il y a des gens qui vont en user, abuser et qui n'ont rien.
Ouais. Tu vas chez le kiné toutes les semaines. Bon, ok. T'as déjà vu, à part le kiné, t'as d'autres routines, t'as d'autres habitudes, tu vois d'autres professionnels, d'autres experts?
Alors, j'ai déjà fait quelques fois appel à un ostéopathe. et sinon, à part ça, non.
Ok. Bon, je sais pas si tu le sais personnellement. Moi, je suis ostéopathe ici, oui. À Montréal. Donc, j'aime bien toujours, je suis toujours un petit peu curieux. Tu te souviens ce qu'il t'avait dit sur ta posture, sur tes déséquilibres, sur ce qu'il t'avait fait un petit peu ou pas forcément?
Alors, moi, j'avais été le voir parce que j'avais des petites douleurs dans le dos, mais visiblement, c'était dû à une vertèbre qui avait bougé. Et du coup, il m'avait replacé ça.
Hop. Ça doit être, j'imagine, un gabarit comme toi sur la table, ça doit être. Il faut être ingénieux pour utiliser les leviers.
Et il grimpait dessus. Un peu dessus pour y arriver. Et après, non, on avait regardé, oui, sur la posture. Il m'avait dit d'ailleurs que mes douleurs que j'avais au genou étaient peut-être dues à d'autres blessures qui se trouvaient ailleurs au niveau des chevilles, il m'a dit. J'ai pas exploré plus loin que ça, mais on avait regardé un peu d'autres choses. m'a fait craquer aussi les cervicales. Visiblement, j'avais beaucoup de tension dans les cervicales. Donc, j'ai cru que j'allais mourir sur la table. Faire briser la nuque.
Ouais. Faut y aller. C'est vrai que c'est un truc... Mais moi, je suis pas à l'aise hein, si je suis sur une table et que même un ostéo expérimenté commence à manipuler mes cervicales. Il y a ce réflexe d'un peu d'appréhension. Et puis moi, j'ai jamais aimé qu'on me craque moi-même, ce qui est assez marrant dans les études. J'ai jamais été fan des moments de pratique ou lorsque c'est moi qui suis le cobaye, quoi. Ouais. Mais en réalité, les cervicales, c'est beaucoup plus solide qu'on ne le pense. Et l'ostéo reste dans des limites articulaires. Où il n'y a aucun risque de casser le cou, quoi. Et c'est justement, je me demandais, parce que avec que ça soit la barre de squat, parce que tu as les trapèzes qui sont assez proéminents. Donc, tu vois, je me disais, si tu avais des douleurs de cou régulièrement,
non,
ou pas.
Très très rare, mais vraiment très très rare au niveau du cou.
Tu as déjà passé des radios récemment?
De
la colonne
Du dos, non, ça fait peut-être bien 2-3 ans que j'ai pas fait de contrôle à ce niveau-là. Ouais.
La dernière fois, il n'y avait rien.
Et même quand j'ai eu mes problèmes de genoux, j'avais fait un IRM sur les deux genoux. Et visiblement, au niveau articulaire et cartilage, il y avait au niveau des genoux, c'était magnifique.
Tout était bon.
Ouais, parfait.
C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition?
Il y en a plusieurs. ma première, c'était mon match Champions League. Parce que c'était la première fois où j'atteignais un haut niveau, niveau professionnel. C'était la première fois où je me confrontais à des athlètes internationaux, en fait. Bah, notamment, ma première SL, il y avait un Québécois, Jean-François Caron, qui était là, mais qui aujourd'hui est un des meilleurs au monde. Donc, ouais, ça reste un bon souvenir. J'avais pas gagné, hein, mais j'avais fini sixième. Mais c'était un très bon souvenir parce que voilà, j'arrivais au plus haut niveau. Donc ça, c'était, j'en garde un très bon souvenir.
Et ton pire souvenir?
Mon pire souvenir, ça va être sur des compétitions de force athlétique, ouais, où je fais ce qu'on appelle une bulle. Je valide aucune barre. Alors souvent, parce que des arbitrages sont un peu trop durs, un peu trop sévères. Et ça me fait perdre un titre, ça m'a fait perdre une fois un titre hein, quand même de champion de France. Mes barres montaient, hein, mais c'était juste que l'arbitrage estimait que ce n'était pas bon.
Mais parce que le truc, c'est qu'en fait, tu te mets dans la position basse, t'attends un...
Ouais, t'attends. Alors moi, je faisais des compétitions à l'époque, je ne fais plus dans cette fédération, en FF Force, donc c'est l'IPF version française. Donc, et voilà, donc il y a un temps d'arrêt sur les pecs, à l'époque... On ne pouvait pas toucher le ventre, donc il fallait que la barre au développé couché, notamment, touche les pecs, quoi qu'il arrive. Je me souviens de ce championnat de France, là, où on m'a fait faire une bulle. Hein. Je monte quand même trois fois, je monte 290 kilos. Les arbitres estiment que j'ai touché le ventre. Donc, du coup, je fais une bulle. Et voilà, ça, c'est des mauvais souvenirs, parce que c'était beaucoup de préparation mais bon, ça fait partie du jeu.
Comment tu te prépares sur une compétition qui arrive de Strongman? C'est combien de semaines à l'avance? Est-ce que tu planifies? Est-ce qu'il ne faut plus te parler
Non, je sais pas. Non, justement, beaucoup de gens me le disent. Moi, en compétition, je suis cool. Hein, je suis pas dans ce truc de se mettre les nerfs, de s'énerver, de se mettre des baffes, de se cogner la tête contre les murs.
L'ammoniaque.
Non, j'ai essayé, ça ne me réussit pas. Ça, j'aime pas.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites fioles d'ammoniaque que tu respires juste avant de faire une épreuve. En fait, ça te fout un coup de jus.
J'ai essayé, ça m'arrache surtout les muqueuses du nez, moi, mais c'est pas grand-chose. Donc, s'il y en a que ça aide, hein, je suis peut-être plus placé beaucoup de choses. Sinon, ma préparation, je m'entraîne toute l'année. Et après, dès que les objectifs de compétition sont calés, dès qu'il y a des dates, je commence à me préparer. Là, je vais attaquer ma préparation début mars, là. Où le but, ça va être dans un premier temps de monter en charge le plus loin possible sur des mouvements de base, et après on va attaquer le spécifique strong.
Sur les épreuves, ouais, classique.
Ouais. Sur les épreuves.
Oui, parce que maintenant tu es équipé pour faire toutes les épreuves. J'en ai oublié ma question. Qui était, sur ta off-saison, t'arrêtes tout?
Non. Non, je m'entraîne toujours. Je réduis, mais je m'entraîne toujours.
Ça reste toujours un plaisir.
Ah oui, moi, je me suis même toujours dit, hein, j'arrêterai, bah, forcément, un jour, j'arrêterai les compétitions, mais je m'entraînerai toujours. Ouais, c'est un plaisir de s'entraîner. Hein.
Ouais, et puis bon, maintenant, Palini Sport, donc avec qui tu es en collaboration, qui te permet de. Tu t'es fait ton gym avec tous les trucs. Alors, c'est quoi les trucs spécifiques que tu as maintenant? J'ai vu que tu avais une presse
Ouais,
spéciale épaule.
alors j'ai deux Panini, j'ai une cage à squat, les barres, les poids, bande développée couchée. Et après, en spécifique, Panini m'a fait ce qu'on appelle une Viking Press, donc une épreuve spécifique aux hommes forts. Panini m'a fait aussi une plateforme pour le deadlift car, pour soulever les voitures. Donc ça a été fabriqué par Panini aussi.
Ah, celle qu'on voit sur ton Instagram.
Ouais, la plateforme noire, ouais, c'est faite par Panini, ça.
Ok. Genre le tronc, l'espèce de tronc coupé au milieu où il y a des
Le log,
poignées.
ça c'est un autre partenariat, c'est avec Metalsgeist, donc ce qui est un fabricant tchèque qui m'a fabriqué mon log, ce qu'on appelle un Austrian Oak, donc qui est fait en bois. Donc là j'ai ça pour m'entraîner aussi. Hein.
Est-ce que tu as déjà vu ces vidéos où les mecs ils poussent tellement lourd qu'ils finissent par s'évanouir, c'est parce qu'ils font
Oui, ouais, j'ai
des
déjà vu pas
manœuvres de
mal,
Bassalois.
ouais.
Ouais, ça t'est jamais arrivé ça où je crois que encore pire les mecs ils vomissent ou
Vomir, ça m'est jamais arrivé, m'évanouir non plus. Des petits étourdissements, oui, ça peut arriver avec une technique de Vasalva sur des squats, soulevés de terre, etc. Ouais, ça peut arriver parfois de ce qu'on appelle dans le jargon prendre une châtaigne, mais je me suis
au
jamais
rugby aussi.
évanoui ou j'ai jamais vomi.
Okay. Prendre une châtaigne, c'est marrant, mais c'est comme au rugby, je crois, tu prends une châtaigne.
Aussi.
Ouais. C'est pas la même. Je suis obligé, je sais qu'on te l'a posé, je sais qu'on te l'a beaucoup posé cette question. Ou en tout cas, on en a beaucoup parlé, parce qu'on y pense forcément quand on a ton gabarit. Je suis obligé de te demander, dans la vie de tous les jours, le siège d'avion, la place en bagnole, le train, les transports, comment ça se gère?
Parfois c'est compliqué, ouais. Ouais. Alors voiture, bon, bah, c'est la mienne, donc ça va. Mais dans les transports, dans les avions, c'est une galère pas possible. Et encore, je me dis des fois quand je pars en compétition en avion, je me dis j'ai de la chance qu'en strongman, la plupart des gars sont plus grands que moi encore. Ils font 1,90 m, 2 m. Je sais pas comment ils font. Hein. Parce que moi, j'ai déjà les genoux qui touchent le siège. Bah, il y a quelqu'un à côté de moi, bah, pas de bol pour lui, il va passer un sale moment parce que bah, moi, je pourrais pas.
Il te regarde quand t'es assis et que le mec il se rend compte qu'il est assis à
C'est pas
côté
le
de toi.
moment où c'est quand eux sont déjà assis, que moi j'arrive dans le couloir de l'avion et que là t'arrives vers le gars et tu sens que les gens, que quand tu passes les sièges, tu sens qu'ils disent ouf, c'est pas moi. Et finalement, bah, quand t'arrives et tu dis je peux m'asseoir, c'est ma place. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu sens dans leur visage que des fois ils disent merde.
Ouais, et puis même si ça se voit pas et que, ils arrivent à le masquer totalement,
Ouais,
tu sais
ouais.
au fond qu'ils se le disent,
Bah
oh
oui,
putain.
moi je peux pas me pencher, je vais dépasser des deux côtés du siège. Donc du coup, c'est compliqué. Après, ouais, il y a plein de choses. Après, des petites choses drôles. Il y a quelques temps, j'avais été à Disneyland et on m'a fait descendre du manège. On m'a fait descendre du manège parce que je pouvais pas fermer le harnais de
Ah oui.
sécurité.
C'est assez marrant.
Pas de
Ah,
bol.
c'est assez marrant. Bah, du coup, t'as pas pu faire le manège, quoi. C'est triste.
Ah non, bah après, ça arrive, hein, c'est pas grave.
Non, c'est pas. T'as déjà fait du saut à l'élastique, saut en parachute, des choses
Alors,
comme
sur
ça?
l'élastique, non. Parachute, j'ai voulu en faire. Et on m'a dit non, trop gros.
C'est vrai? C'est
Ouais,
vrai?
ouais.
En tandem ou. Bah oui, parce que t'es obligé de faire que en tandem.
Oui, le
T'as
premier, tu es
déjà.
obligé de le faire en tandem. Et non, on m'a dit, avec mon poids de corps, il pouvait aller maximum sur des personnes à 120 kilos de poids de corps, mais pas plus.
Mais parce que la personne qui te portait n'était pas assez forte, ou c'est une question de sécu,
Bah,
c'est.
visiblement, c'est une question de sécurité, parce que quand tu sautes pour la première fois, donc voilà, faut être deux, donc du coup, il y a le poids de l'instructeur plus le poids de moi, et donc visiblement, voilà, ils vont jusqu'à, moi, on m'avait dit 120 kilos maximum.
Je pense honnêtement que c'est aussi la personne qui te porte, parce que moi je l'ai fait, c'était cet été, je suis en parachute, et en fait, comment ça se passe, c'est que la personne te porte entièrement.
Ouais.
Bah, je sais pas comment ça se passe partout, mais je pense que les procédures sont à peu près les mêmes. C'est que tu es dans l'avion, tu es accroché, t'es devant lui, donc tu es bien harnaché. Et lorsque il se lève pour aller vers la sortie de l'avion, il te demande, en fait, tout est expliqué à l'avance, évidemment, hein. C'est que toi, tu ne vas pas toucher les pieds par terre, ouais. Tu vas passer les jambes en arrière de lui. Donc, en fait, tu es un peu comme un bébé qui est porté en avant de sa maman, tu vois.
Ouais,
et alors, il porte tout le poids de ton corps sur lui, sur l'avant de son corps. Il s'accroche au truc de l'avion avant de sauter. Et ensuite, il te dit, c'est bon, go, on y va. Mais, et en fait, là où c'est impressionnant, c'est que tu es dans le vide. Pendant un petit laps de temps, tu es dans le vide avant qu'il saute.
Ouais.
Tu vois le vide et tu te dis, au bout d'un moment, il va se lancer. Tu vois, il va se lancer. Et pendant ce petit laps de temps, en fait, tu touches pas le sol et tu es à la merci du mec qui, d'une seconde à l'autre, va se jeter dans le vide. Alors j'imagine que, ok, il y a de la sécurité, peut-être de toutes les procédures. Mais bon, le mec, il faut quand même qu'il soit capable de te porter.
Ouais, ouais, donc du poids. Coup. Okay. Un jour peut-être, mais
avec Thor, c'est peut-être Thor si
ah bah, faut sa certification, un sacré parachute, hein, parce qu'avec son poids et le mien, on va pas être bien.
Exactement, faudra un gros parachute. Ok. Bon, je t'ai demandé je t'ai demandé tes blessures, les expériences que tu as eues avec les ostéos, tout ça. Là, en ce moment, avant que tu prennes ta planification d'entraînement, comment est-ce que elle ressemble à quoi tes journées
Je m'entraîne le soir en général chez moi, donc vers 18h, et après la journée, je continue. Malgré le confinement, le Covid, mon activité de formateur continue quand même.
En ligne ou tu le fais en présentiel ?
Alors, en présentiel et en ligne. Je fais les deux. Donc, c'est pour ça que je suis bien habitué avec les visios. Et du coup, je m'entraîne chez moi. Alors, ce qui me manque, c'est de m'entraîner avec du monde. Moi, j'aime bien m'entraîner un peu ce côté entre potes, etc. S'entraîner c'est à plusieurs, c'est plus sympathique. Là, je suis obligé de m'entraîner tout seul, malheureusement. Donc ça, vivement que je puisse retrouver mon équipe pour m'entraîner correctement avec eux.
Ouais. En dehors du côté communautaire, est-ce que ça aide de s'entraîner avec du monde, enfin je veux dire.
Ouais ouais, ça motive.
Sur les et puis sur les poids, sur les exécutions, sur les mises en place des épreuves,
ça motive déjà, ça motive. Après il y a l'aspect aussi sécuritaire évidemment, quand tu fais un squat lourd et que t'as personne derrière, t'as intérêt d'être sûr de toi. Même si on peut toujours jeter la barre, mais bon. C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un. C'est le côté motivation. Surtout qui manque.
Tu prends des compléments ?
Oui. Compléments, ouais. Pareil, c'est un sponsor Nutrimuscle que j'ai. Qui m'a fourni en complément.
Ah, ok. Je savais pas que tu étais sponsorisé Nutrimuscle. Qui commence à sponsoriser de plus en plus Nutrimuscle.
Ouais, c'est une marque très ancienne. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé la musculation, je me fournissais chez eux déjà. Ça m'a fait plaisir de passer en partenariat avec Nutrimuscle.
Ils se sont longtemps un peu refusés à être dans ce côté un peu sponsoring marketing. Depuis que ça a été repris, parce qu'à un moment donné ça avait fermé, Nutrimuscle avait fermé, et puis finalement ça a été repris. Je pense que les visions, la vision s'est un petit peu élargie, et donc maintenant ils essayent de grimper un peu plus dans le. Enfin, ils font un peu plus de marketing. Avant, oui, c'était très.
C'est une nouvelle. Faut suivre un peu les méthodes de communication actuelles, en fait.
S'ils veulent grossir, ouais. Voilà, mais c'était longtemps, ça a été leur truc de pas se baser, de pas faire de marketing parce que ils voulaient pas, dépasser. Déjà, rester top qualité et pas dépasser un certain volume de vente et que ça empiète sur la qualité. Je crois que c'était ça un peu leur truc au début. Moi aussi, j'ai découvert Nutrimuscle. C'est le premier épisode. C'est Raphaël Lesforis qui est passé dans le tout premier épisode du podcast qui m'avait fait découvrir en tout premier lieu Nutrimuscle. Et je me souviens avec ces gros bacs de. Ces trucs de ciment là.
À la dernière compétition, c'était à Tarbes, les dernières d'Homfort qu'on a pu faire. J'ai gagné, en fait, le premier, gagné un sac de 25 kilos de protéines.
C'est un sac de ciment, quoi.
Dans ma cuisine, j'ai un énorme sac de protéines qui est posé sur le plan de travail.
On te demande si t'es pas en train de refaire la cuisine, quoi.
Ouais, mais non, ça se mange. C'est des protéines.
Ok. Tu prends quoi chez Nutrimuscle?
Alors, tout ce qui est protéines, caséines, les compléments également, multivitamines, minéraux, oméga 3. Je prends aussi du collagène pour les articulations quand même si j'ai pas spécialement de douleur, mais
tu protèges.
me protéger quand même. Je prends aussi des boosters pour l'entraînement, pour stimuler un peu à base d'arginine avec différents acides aminés et des BCA, évidemment.
Ok. Quel est, on va bientôt conclure. Quel est ta vision pour le futur du strongman? Est-ce que tu penses que ça va encore plus se professionnaliser, que ça va devenir encore plus populaire comme l'a été le fitness début des années entre 2000 et 2010, que ça a explosé? Quelles sont les problématiques? Quels vont être les challenges
Alors, je
pour
pense
ce
qu'au
sport?
niveau international, ça va continuer à se développer. Parce que même si les deux athlètes les plus connus, hein, qui sont Thor et Eddie Hall que tu as cités, même s'ils sont plus athlètes, mais ils sont toujours dans le monde du strongman quand même, il y a maintenant des ligues qui se créent, il y a des compétitions qui s'organisent, il y a même Dubaï qui se met aussi à organiser des compétitions de strong. Et quand ils font un truc, bah là-bas, ils font pas à moitié, hein, donc ils font un véritable spectacle. Non, je pense que ça va continuer à se développer de plus en plus, de plus en plus médiatisé, de plus en plus de personnes suivent les strongman, même moi, mon niveau en France, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont pas forcément pratiquants de strongman, mais voilà, qui me suivent parce qu'ils ont un intérêt pour cette discipline. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on va vers quelque chose de plutôt positif pour cette discipline, de plus en plus.
Tu vas continuer longtemps, toi, tu penses rester dans le milieu ou tu songes déjà à peut-être ralentir?
Moi, j'ai 36 ans, donc forcément, on y pense un peu plus. Mais non, pour le moment, tant que mon corps me dit pas stop, je vais continuer. Je suis conscient que je vais pas faire encore une dizaine d'années, mais je me dis, voilà, si je peux rester compétitif à plus haut niveau jusqu'à 40 ans, 41, ouais, bah, pourquoi pas, je continuerai.
Ouais. Un truc auquel j'y pense, je suis un petit peu obligé de te poser, te demander, ça va de soi, je me pose la question aussi. Est-ce que, comme dans tous les sports, il y a du dopage dans ce milieu, forcément?
Il y en a forcément dans tous les sports, hein. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de toute discipline sportive maintenant. Donc ça, il y en a dans tous les sports. Après, en France, il y a quand même pas mal de contrôles.
Est-ce que tu penses que c'est moins marqué que pour le bodybuilding, par exemple? Là où on sait que,
Ah,
bon, j'avais reçu Rob aussi sur les stéroïdes, sur les anabolisants, tout ça, où c'est admis.
sur un
C'est
strongman, c'est pas voyant, en fait. Tu le verras pas. Il n'y aura pas d'effet, voilà, comme un bodybuilder, l'aspect sec, etc. Certaines choses du dopage peuvent apparaître. Chez un homme fort, tu le verras pas. Même
Il y a des compétences.
Il y a une couche de gras qui cache tout.
Il y a une couche de gras qui cache tout, ouais, c'est ça, tu le vois pas. Mais ok. Allez, les trois petites questions de fin, comme d'habitude. Je regarde le temps. Un épisode beaucoup plus court que d'habitude, on a été assez rapide. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
10 ans en arrière, ça serait, bah, justement de m'entraîner, je vais pas dire avec plus de régularité, mais d'essayer d'être plus intelligent dans mes entraînements. C'est-à-dire de pas spécialement toujours essayer de pousser comme un bourrin dans chaque entraînement. Je pense que ça a été une de mes erreurs, à mes débuts, en fait. J'essayais à chaque entraînement de dépasser mes limites. Et finalement, bah, on s'aperçoit avec le temps qu'une planification, c'est pas ça, c'est être prêt le jour J au bon moment, et c'est pas d'être toujours performant à l'entraînement. Donc ça, ouais, ça aurait été dans la meilleure logique d'entraînement à l'époque, ouais, j'aurais aimé.
Comment t'as découvert ça? Après, t'as eu un coach qui t'a
Bah,
expliqué?
déjà, moi, je me suis formé, je suis devenu coach, donc du coup, avec toutes les formations que j'ai suivies, je me suis aperçu que finalement, à mes débuts, bah, je faisais pas mal d'erreurs, hein, d'entraînement, de planification. Je laissais pas de place à la récupération, en fait, je m'entraînais trop. Donc, non, ça, c'était une de mes erreurs. Ouais.
Est-ce que t'as eu un modèle?
Alors, ma discipline, ouais, bah, il y a des gens comme Bill Kazmaier, Dizroy Zavitas, qui étaient pour moi des exemples.
Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que ça soit dans le milieu du sport ou que ça soit pas dans le milieu du sport, et que tu as envie de recommander ou...
Alors, ben, moi, pas forcément en lien avec le Strongman, mais j'ai pour mes études, donc j'ai beaucoup utilisé les livres à bah, Delavier, que t'as reçu. Donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation en regardant les livres à Delavier, à Fred Delavier.
Ouais, ils ont marqué toute une génération.
Ouais, bah, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Fred?
Ouais, on s'est croisé plusieurs fois sur des salons et on échange quelques fois ensemble sur nos disciplines.
Toujours très passionné, Frédéric Delavier.
Oui, très passionné.
Ouais. Ok. Bon, écoute, si on veut en prendre un petit peu plus sur toi, qu'on veut te découvrir, les gens ils ne te connaissaient pas avant de t'avoir entendu sur ce podcast, où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur le web
Sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Aurélien Strongman, mon nom sur Insta. Ouais. Après, j'ai une chaîne YouTube j'ai quelques vidéos dessus.
J'ai vu qu'elle n'était pas très mise à jour, cette chaîne.
Pas trop. Non, mais on me demande beaucoup de mettre des vidéos, etc. Alors, les vidéos de performance, on peut les retrouver assez facilement sur Insta, mais ma chaîne, ouais, l'objectif, ça serait plutôt de la développer sur quelque chose d'orienté sur des tutos, par exemple, sur le strongman, sur sur la technique, sur.
Voilà. Ça n'existe pas, ça, en français, il n'y a pas. Hein.
Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, donc enfin, je sais que beaucoup de gens me le demandent. J'avais commencé à le faire et donc c'est prévu de le relancer. Après, bah, faut que je fasse des belles vidéos de qualité, évidemment. Ça ne va pas être juste me filmer avec mon téléphone, ça ne va pas avoir un rendu terrible. Mais voilà, l'objectif de cette chaîne YouTube, donc qui existe, qui revient le jeune tout simplement, ça serait de l'orienter vers ça, vers du tuto strong, force. Donc ça serait mon objectif là pour cette année aussi.
Et ça pourrait vraiment booster également, faire connaître encore plus ce métier, parce que c'est clair que si tu fais des vidéos de qualité sur ça.
Le but, hein, c'est pas de devenir influenceur, c'est surtout...
C'est jamais, hein.
Oui, pourquoi pas.
Regarde Baptiste.
Ouais, Baptiste, il commence à marcher très très fort. Mais voilà, le but serait surtout de partager ma passion au final au plus grand nombre. Donc non, ça c'est un des objectifs pour 2021. Que je me suis fixé, c'est de relancer ça et avec cet objectif de tuto sur la discipline.
Parce que lui, il a une équipe, enfin, je ne sais pas si c'est une équipe de tournage qu'il a ou si c'est quelqu'un qui travaille avec lui qui s'occupe de la qualité audio.
Il a quelqu'un qui filme et qui fait les montages avec lui.
Ouais. Ouais, ça aide beaucoup pour faire plus de vidéos. Et...
Pas se mentir, c'est un peu ça mon frein en fait. Alors, me filmer, je peux, hein, j'ai du matériel pour le faire. Mais faire les montages et tout, je ne sais pas spécialement faire. Il faut le temps pour le faire.
C'est vrai qu'il faut le temps. Bon, parfait. Instagram, YouTube, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller s'abonner. T'as un site web ?
Non, j'en avais un, mais je l'ai retiré. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour un athlète en tout cas, j'en vois plus l'intérêt en fait.
Tu ne fais pas de coaching, tu ne proposes pas d'accompagnement, de suivi ?
Si, je fais. Alors, même si aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est essentiellement la formation. Mais j'ai toujours des athlètes que je suis, alors que ce soit dans le rugby ou la force, ou peu importe. Alors, c'est souvent orienté quand même sport de force ou rugby. Mais oui, je fais toujours des suivis d'athlètes, toujours.
Ok, bon, si on te contacte directement sur Insta, j'imagine.
Sur Insta, oui.
Il y en a qui sont intéressés. À distance aussi, tiens, pour ceux qui se demandent.
Et j'en fais à distance, ouais. Bon. J'ai même des clients en Chine, tu vois.
Ah oui, c'est pas la porte à côté.
Non.
Des Chinois de Chine ou des Français qui sont en Chine?
Un Français de Chine. Non. C'est un Français qui est joueur de rugby en Chine.
Ok. Voilà, si vous êtes intéressé par ce sport de force et que vous souhaitez être accompagné, vous pouvez essayer de contacter Aurélien.
Ok.
Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou que tu voudrais faire passer un message ?
Non, j'espère retrouver les gens qui nous écoutent sur les compétitions. Donc là, on a quelques belles dates de compétition qui sont prévues. Fin mai à Tarbes et une en juillet à Rouen, 23, 24, 25 juillet. Donc ça va être un truc vraiment énorme dans un lieu super. Donc la fédération française de strongman, ils ont vraiment fait un beau boulot pour organiser ces compétitions. Donc maintenant, on espère que le Covid va nous laisser tranquille. Mais voilà, on a des belles choses de prévues.
Et si j'avais été en France, je pense que j'aurais été faire un tour, parce que Tarbes, c'est pas très très loin de là où je suis né, parce que moi je suis du sud-ouest, en fait, des Landes, donc Tarbes, c'est pas hyper loin.
Oui, ouais.
Je pense que je serais venu, parce que au-delà, ça doit être un moment sympa, quoi. Je veux dire, au-delà de voir des athlètes faire des prouesses, je pense qu'il doit y avoir une bonne ambiance.
Ouais, c'est vraiment, moi j'ai retrouvé un peu dans l'ambiance Strongman, l'ambiance qu'il y avait au rugby, en fait.
Et ben voilà, ça m'étonne pas.
Ouais, donc ça c'est assez sympa. Hein.
Ok, ben écoute, c'est noté. Voilà, ben je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Si l'épisode vous a plu, ben partagez-le hein, à vos amis, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées ou qui font des sports de force ou même de la muscu, ben partagez ces épisodes. Prenez une capture d'écran et puis balancez-le en story sur Instagram en mentionnant donc nos tags là, Aurélien Lejeune et Biomécanique Podcast. Comme ça, on peut vous repartager. Ça fait connaître l'émission, ça a donné un petit boost, un petit coup de boost aussi à cette activité. Qui est en train de monter, mais qui a besoin d'encore un petit peu de visibilité. Donc n'hésitez pas, et puis si vous avez apprécié cet épisode, notez-le sur Apple Podcast, un petit 5 étoiles qui fait toujours plaisir, évidemment, je le rappelle à chaque fois, parce qu'il y a des notes, les notes sont de plus en plus nombreuses, les commentaires aussi, donc les feedbacks sont super appréciés. Et puis une dernière petite chose, n'oubliez pas de vous inscrire à la lettre biomécanique, hein, c'est ma newsletter qui se trouve en description, c'est le premier lien en description, juste allez cliquer dessus, juste pour regarder, c'est un peu plus qu'une newsletter. Voilà, merci Aurélien.
Merci à toi Jérôme, ce fut un plaisir.
À bientôt, j'espère.
À bientôt.
Ne quitte pas de suite. Okay. Je vais couper l'enregistrement, évidemment. Je vous dis à tous merci d'avoir été là cette semaine pour cet épisode. On se retrouve lundi prochain avec un nouvel épisode, évidemment. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.